BFM Business présente la 12e saison du concours de créateurs d'entreprise. BFM Academy avec Nicolas Dose.
Bonjour, bienvenue. Deuxième éliminatoire de cette saison 12. La semaine dernière, Evelyne Plétnik-Cohen a choisi Coussin Victor. Vous savez, c'est ce coussin, cette tablette numérique qui est une aide aux personnes dépendantes. Aujourd'hui, ça va se jouer à nouveau entre trois candidats qui ont participé à nos castings. Joliment orchestré par Eve Chégaray. Bonjour Eve Chégaray.
Bonjour Nicolas.
La présidente de notre BFM Academy et le coach qui devra trancher en fin d'émission, c'est Fabrice Marcella. Bonjour Fabrice.
Bonjour Nicolas.
Bienvenue. Merci de nous accompagner donc pour une nouvelle saison. Ben, on va tout de suite savoir exactement qui est Fabrice Marcella, d'où il vient, regardez.
Je suis Fabrice Marcella, je dirige le village Baïssé à Paris, on m'appelle le maire du village. Donc ma principale qualité, c'est une épreuve de torture ça, hein, c'est de la torture. Ma principale qualité, je dirais que c'est l'agilité. Ma principale qualité, c'est la bienveillance, en plus de l'agilité. Hein, donc ça fait deux qualités là. Mon principal défaut, je dirais que c'est toutes les fois où mes filles me disent « Papa, arrête d'être sur ton iPhone ». En fait, je suis un geek. Je suis en permanence en train de tester les sorties des nouvelles technos. Je suis en permanence connecté. Moi, président, ce que je ferai pour les startups, j'ouvrirai mon carnet d'adresses pour me permettre à chacune d'entre elles de passer d'énormes contrats avec le service public. Alors, le mot de la fin, alors je suis plus le petit nouveau de la BFM Academy. C'est ma deuxième saison. J'ai hâte de retrouver l'ensemble des autres coachs et j'ai surtout hâte de gagner cette nouvelle saison. Enfin, avec mon poulain aussi. Oui, on s'en fout de moi. Je suis d'accord. Non, c'est moi qui vais gagner. On va recommencer.
Bonjour Laure Closier.
Bonjour Nicolas.
Bon, désormais dans cette émission BFM Academy, il y a la chronique pile ou face pour démarrer cette émission. Être chef d'entreprise, il faut toujours choisir. Blanc, noir, méchant, gentil.
Bah oui.
Voilà. Alors pile ou face, aujourd'hui, il faut choisir entre secret ou transparence.
Et oui, parce qu'il n'y a rien de plus énervant que de se faire piquer une idée. Alors regardez les frères Winklevoss et Mark Zuckerberg, ils lui parlent de leur idée et paf, ils créent Facebook. Alors c'est vrai que c'est bête et ça rend méchant, méfiant même. Est-ce pour autant une raison pour tout cacher? Alors il n'est pas rare de rencontrer des entrepreneurs en recherche de financement qui prennent des précautions inouïes au point de demander la signature d'un contrat de confidentialité avant même d'exposer la nature du projet. C'est ce qu'explique Olivier Herzati dans le guide des startups high-tech en France. Bon alors, est-ce que vraiment vos idées sont tellement innovantes qu'elles demandent tant de précautions? Alors peut-être hein, en cas de brevet révolutionnaire ou autre, mais c'est pas toujours le cas et parfois ça frise le ridicule. Certains investisseurs en ont marre. Je n'en peux plus des entrepreneurs agents secrets, m'expliquait récemment Fabrice Marcella ici présent. Le prochain qui me dit « Désolé, je ne donne aucun chiffre, j'en fais de la charpie », m'a expliqué Marc Fiorentino après avoir reçu 200 startups qui refusaient de donner leur chiffre d'affaires. Alors faut-il tout dire? Faut-il faire de sa start-up un livre ouvert? Je ne sais pas, mais en tout cas, Olivier Herzati rappelle une chose, les conditions du succès tiennent peu à l'idée, mais beaucoup plus à la capacité de créer une équipe, à exécuter correctement un plan. Et il y a bien d'autres facteurs, une offre qui répond à un vrai besoin, un bon modèle économique, un bon time to market, tellement d'autres secrets, d'autres éléments qui ne demandent pas de secret polichinelle. Conclusion, on a l'impression que l'entrepreneur d'aujourd'hui est certes un super-héros, mais il semble quand même qu'il avance plus trop masqué.
Laure Closier, F. Chégaray, vous leur dites quoi? Vous accompagnez Vivons Cachés ou alors allons-y, transparence maximale?
Nous, on aime bien la transparence maîtrisée.
Transparence maîtrisée.
Voilà, tout n'est pas bon à dire, mais c'est vrai qu'on peut... Il faut se préparer.
Oui, les entrepreneurs qui réussissent le mieux sont ceux qui ont le plus partagé. Hein. Ça, c'est après 150 startups que j'ai accompagnées en 3 ans.
Eh bien justement, nous, on va essayer de le rendre le plus transparent possible, nos candidats. On commence avec le premier candidat aujourd'hui. Il s'appelle Erwan Lemenné et il nous présente Ecotree.
BFM Academy, ils y croient, mais croirez-vous en eux?
Bonjour Erwan Lemenné.
Bonjour Nicolas.
Premier candidat donc de ce deuxième éliminatoire, vous êtes venu nous présenter Ecotree. Tiens, si on abandonnait le livret A pour le livret arbre, évidemment à ce stade-là on n'a rien compris, regardez pour en savoir plus.
Je m'appelle Erwan Lemenné, j'ai 32 ans et j'ai cofondé Ecotree. Ecotree propose à des particuliers ou à des professionnels d'investir unitairement dans la forêt en devenant propriétaires des arbres dont ils ont financé la plantation. Vous êtes ici sur un terrain qu'a acheté Ecotree l'année dernière, qui était reboisé au début de l'hiver. Et ce plan-là, par exemple, a été financé par un particulier la semaine dernière. Planter, c'est bon pour la planète et c'est rentable. Ce Douglas, dans 30 ans, produira entre 1 et 1,5 mètres cubes de bois. C'est donc Ecotree qui va s'occuper de tout l'entretien et toute la gestion de votre arbre durant une révolution, c'est-à-dire un cycle complet de l'arbre. On a passé hier la vente des 10 000 arbres sur notre site internet et aujourd'hui, en termes de surface, on n'est pas loin d'une centaine d'hectares. On a des grandes ambitions, et en particulier pour l'année prochaine, où on compte faire 10 fois plus que ce qu'on a réalisé cette année. La grande force des coteries, c'est de faire de l'environnement et du développement durable un atout pour les entreprises et pour les particuliers. On espère ainsi créer un cercle vertueux autour de cette initiative.
Voilà, l'arbre qui devient un produit d'épargne. On investit dans du capital vert, F. Chégaret et Fabrice Marcella. C'est à vous.
Alors, justement, pour rebondir, bonjour Erwan.
Bonjour,
concrètement,
Fabrice.
Chez Écoterie, j'achète quoi ? Un arbre ? Un produit financier ? Une conscience écolo ? Un petit peu tout ça à la fois ?
Alors, pour répondre précisément à votre question, on ne vend pas aujourd'hui un produit financier. Un arbre, ce n'est pas un produit financier. Ce qu'on permet aujourd'hui, c'est à des particuliers ou à des entreprises de devenir propriétaires d'un arbre. L'arbre, ils vont financer en fait la plantation d'un arbre et donc devenir propriétaires de cet arbre-là. La vraie innovation des coteries, c'est d'avoir dissocié la propriété du terrain, du foncier, de la propriété de l'arbre. Voilà. C'est un principe juridique qui s'appelle le MUP par anticipation.
Alors quand je suis propriétaire, ça veut dire que j'ai une taxe foncière, j'ai des frais de notaire, j'ai une plus-value éventuellement lorsque je vais revendre ?
Non, justement, vous êtes propriétaire d'un bien meuble et pas d'immobilier. Vous êtes propriétaire uniquement de l'arbre et Écoterie est propriétaire du terrain.
Même avec les racines, l'arbre est meuble.
Eh bien oui, c'est la même chose. Je vais vous donner ce meuble par anticipation. Ce principe-là, il est utilisé notamment pour la vigne ou pour le vin en primeur ou pour les récoltes de pommes, par exemple, où les grandes entreprises achètent la récolte avant même qu'elle ait poussé.
Mais c'est pas un peu rétro comme concept ?
Rétro, les arbres ? Ben, pourquoi ?
Ben, je sais pas, parce que finalement, c'est des investissements. Voilà, ça m'évoque plutôt le passé.
Le passé, bah c'est tout l'avenir, au contraire. Non, en réalité, l'idée des coteries, c'est vraiment de dire il faut que l'environnement durable soit gagnant. Voilà. C'est tellement important comme sujet qu'on ne peut pas se permettre que ça repose uniquement que sur du mécénat, de la bonne volonté, de la gratuité. Tiens, aujourd'hui, je suis content, donc je donne un euro à telle association, etc. Donc nous, on s'est dit, essayons de créer un cercle vertueux où l'environnement et l'écologie est valorisé et récompensé.
Et à qui ça plaît le plus ?
Alors, initialement, effectivement, nous, quand on a monté ça, on a pensé aux grosses entreprises. Toutes les entreprises aujourd'hui, et notamment les gros groupes, ont besoin de se créer une image verte, un peu crédible, pour montrer leur engagement dans l'environnement et surtout pour développer leur démarche RSE. Et donc, chaque année, elles dépensent aussi beaucoup d'argent dans du mécénat pour financer des initiatives qui sont d'ailleurs très très bien. Mais ça repose toujours sur la base du mécénat. Ça impacte c'est un coût pour l'entreprise.
Alors, oui. Erwan Le Ménet, donc on a bien compris le business model qui est le vôtre. Vous allez vous financer parce que vous vendez des arbres, parce que vous allez vous financer sur les revenus de la chasse, par exemple, sur les terrains que vous possédez, sur la cueillette, sur le fait de vendre du bois en coupe intermédiaire avant la maturité totale de l'arbre. Mais moi qui suis client, je vais payer combien pour un arbre et ça va me rapporter combien au bout de combien de temps ?
Alors, effectivement. Nous, on veut pas trop avancer sur l'idée d'un produit financier. On veut pas donner de rendement. On a parlé déjà, d'une part, on a parlé de le faire. Ce qu'on dit aux gens, c'est vous devenez propriétaire d'un arbre. Cet arbre, c'est le seul produit qui pousse et qui prend de la valeur avec le temps. Si je prends une vieille voiture, vous allez me dire, vous l'achetez aujourd'hui, vous pourrez la revendre le double dans 10 ans. Mais la vieille voiture, dans 10 ans, sera toujours une vieille voiture. Moi, votre arbre, dans 10 ans, c'est un arbre grand comme ça, dans 10 ans, il mesurera 30 mètres de haut. Donc il aura évolué. Donc la valeur même du bien va évoluer indépendamment du cours. C'est pas vous que je vais prendre ça, Nicolas, mais voilà. Et c'est ça qui est incroyable. Et donc, aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, par exemple, de la Caisse des dépôts, qui est le référent en la matière, la forêt prend en termes de valeur, donc entre 2 et 4% par an.
Erwan, mais en tant que client particulier, qu'est-ce qui me garantit que dans 20 ans, 30 ans, vous serez toujours là et que je pourrai revendre mon arbre ?
Alors aujourd'hui, on a deux sociétés distinctes. Vous avez Écoterie et un groupement forestier qui s'appelle Promenons-nous dans les bois.
C'est pas vrai.
Ah si, on met toujours un peu d'humour dans le...
Bon,
voilà. Qui est propriétaire des forêts. Donc la partie commerciale, c'est Écoterie qui l'a fait. Si Écoterie se casse la figure, ce sera malheureux pour nous et on s'en sera désolé. Mais le groupement forestier aujourd'hui, qui est l'entité qui a acheté les terrains, elle sera toujours là. C'est un groupement forestier, les terrains sont payés, les forêts, vos arbres vont pas disparaître.
Donc vous êtes des experts dans tout ce qui est plan de gestion des forêts, comment les entretenir.
Ça se voit pas, non ?
Pas encore.
Mais... Non, mais un des associés est expert forestier. Et a lui-même une société en travaux forestiers qu'il a depuis 8 ans, avec un certain nombre de salariés. Donc c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement les plantations, les plans de gestion et le travail du bois.
Et comment allez-vous animer la relation avec vos clients dans le temps ? Parce qu'enfin, on voit bien qu'on est sur un temps long.
Et oui.
Ah, très bien, effectivement. On a la réponse, si vous allez voir notre site, ça s'appelle l'abonnement arbre. Voilà. L'idée, c'est de créer une relation durable avec les clients. Donc cette idée de récurrence, effectivement, on la met en œuvre à travers un abonnement mensuel, un peu comme la box du mois, si vous voulez, où chaque mois, vous allez vous constituer un patrimoine vert, parce que c'est ça, un patrimoine autant écologique que financier, vert, avec le temps. Ça n'a pas de sens d'acheter un arbre aujourd'hui 15 euros, puis d'attendre, j'attends 30 ans.
Non. Mais justement, Fabrice, vous avez acheté un arbre, vous ?
Et oui, j'ai acheté un arbre. J'ai acheté un arbre dans le Morbihan. Et ouais. Je l'ai fait ce week-end. Ouais. C'est un. Ah, je me souviens plus. Je cherchais un châtaignier, je me souviens, et j'ai pas trouvé de châtaignier. D'ailleurs, j'étais très frustré.
Bah, il y en avait, mais il y en a plus. Il fallait être plus rapide.
Il y en a plus. Ouais.
Donc, en fait, l'idée, c'est que voilà,
tout
je vais
a été
mettre.
Vendu, en fait.
Voilà, je mets. C'est 20 euros l'arbre à l'achat, à peu près.
Ouais. En moyenne, ouais, c'est ouais. Entre 15.
Je vais mettre 20. Tous les mois, je mets 20 euros dans l'achat d'un arbre pendant, je sais pas, 2, 3, 4, 5 ans. Et puis, au terme de quoi ? 20 ans ? 15 ans ?
Ouais, ça dépend un peu des espèces et de la maturité des arbres que vous achetez. Mais oui, on est sur des temps longs, hein, dans le développement durable, comme on dit, il y a du rapport.
Vous allez couper mon arbre, et le jour où il est coupé, l'intégralité de la vente de ce bois.
Absolument.
Voilà. D'accord.
L'intégralité de la récolte est reversée à ses clients.
Bon. Vous avez des concurrents ?
Alors, personne aujourd'hui donne la propriété de l'arbre. Donc on a des concurrents qui plantent des arbres, ça c'est pas nouveau, on en a un peu partout voilà, en France, et c'est d'ailleurs très bien ce qu'ils font. La vraie innovation d'Ecotri, c'est de planter d'une part en France, de planter sur des terrains qui nous appartiennent, et donc de pouvoir certifier à nos clients que non seulement les arbres seront bien gérés du début à la fin, mais en plus qu'ils peuvent se prévaloir du carbone qui a été absorbé. Quand vous déléguez la plantation d'un arbre en Afrique du Sud, ou en Amérique du Sud plutôt, c'est très bien, l'arbre il est vraiment planté, mais on ne sait pas si dans 10 ans il n'y a pas eu des constructions, des modifications, une route. Voilà, nous le CO2 qui est absorbé, on le sait parce que l'arbre il est là et Vianney est tous les jours sur la forêt.
D'ailleurs, j'ai noté sur votre site, hein, vous l'indiquiez, hein, c'est 105 000 kilogrammes de CO2 compensés grâce à vos arbres. Ça représente, je notais, 210 vols Paris-New York.
Exactement.
C'est quoi l'étape d'après pour vous, maintenant que vous avez vendu tous vos arbres et toutes vos forêts?
Ah bah, il en reste encore. Hein.
Il en reste encore ?
Il n'y a pas les espèces que vous voulez.
J'ai pas trouvé de châtaignier, c'est pour ça. Donc
non,
c'est
mais
pas...
ouais, bah, on vend le stock qu'on a, effectivement. Non, mais c'est déployé maintenant. Là, on est vraiment dans une période d'accélération incroyable. Donc, on a pour ambition, effectivement, d'acheter de plus en plus de forêts et de plus en plus d'anciennes terres agricoles qu'on va reboiser.
D'accord. Et puis, vous qui achetez les forêts. Hein.
Bien sûr.
C'est vous qui achetez les forêts.
C'est nous qui achetons les forêts, oui. Ouais. On paye le foncier pour la forêt.
Ouais, l'avantage, donc, il vous faut des financements.
Il nous faut de l'argent.
Il faut lever des fonds.
Tous les auditeurs qui ont...
Sauf erreur de ma part, la forêt ne rentre pas dans l'ISF.
Alors justement, c'est la petite subtilité. Si vous achetez de la forêt tout seul, que vous avez des gros moyens, vous pouvez bénéficier de réduction fiscale. Nous, encore une fois, vous achetez un meuble. Donc il n'y a pas de réduction fiscale. Mais ça permet aussi à des particuliers qui n'ont pas des gros moyens de pouvoir avoir un actif forestier sans forcément mettre des milliers, voire même de dizaines de milliers d'euros dans la forêt.
Erwan Lemenet, notre premier candidat aujourd'hui avec Ecotri. Tout de suite, on va accueillir Caroline Bétan. Et elle nous parle de Newsy. Caroline Bétan, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, c'était le casting de Rennes où vous êtes venue nous présenter Newsy. Voilà, le gobelet réutilisable pour les distributeurs automatiques, pour les cafétérias et pour les fontaines à eau. Regardez.
Je m'appelle Caroline Bétan, j'ai cofondé Newsy avec mes trois associés il y a un an. Nous, on est parti du constat qu'il y avait 4,7 milliards de gobelets qui étaient jetés chaque année en France et ça représente 38 000 tonnes de déchets. C'est pourquoi nous avons développé une solution clé en main qui permet de remplacer vos gobelets jetables par des gobelets réutilisables directement dans les distributeurs automatiques, fontaines à eau et cafétéria. Il suffit de remplacer à l'intérieur de la machine les gobelets jetables par le gobelet réutilisable. Ensuite, après avoir consommé votre boisson, vous remettez le gobelet dans un de nos collecteurs. Nous, on vient ensuite collecter les gobelets, les laver en entreprise adaptée et les remettre tout propre sur le lieu de consommation. Une entreprise adaptée, c'est une entreprise qui emploie des personnes en situation de handicap et nous, on a fait ce choix parce que c'est vraiment dans nos valeurs. Si une entreprise ou une collectivité veut faire appel à notre service, nous, on leur propose une offre sur mesure basée sur leur consommation actuelle de gobelets, mais pour vous donner une idée, ça représente un panier moyen de 500 euros par mois. Pour l'instant, nous opérons principalement en Bretagne, en région parisienne, dans le Nord et en Belgique. Et on vise un chiffre d'affaires de 3,4 millions d'euros en 2019.
Souvenez-vous, il y a quelques années, on avait eu Cannibal. Cannibal, c'était justement une solution pour recycler des gobelets, mais qu'on jetait vraiment. Ben voilà, là, on a trouvé chez Garay la solution alternative à la solution jetable avec Newsy.
On s'en souvient bien de Cannibal.
Ils ont gagné d'ailleurs une saison.
Oui, ben, gagnant, mais c'était un gros projet industriel lourd à mettre en... œuvre, hein, quand même.
Bon,
allez,
alors,
on a plein de questions.
Caroline
on
Bétan,
peut tout savoir.
Voilà, les questions de Fabrice Marcella et d'Eve Chégaray.
Enfin, la Bretagne est à l'honneur, hein, après Ecotri et Newsy. Newsy, d'ailleurs, je me posais la question suivante. Que veut dire Newsy ?
Ça veut dire New Cycle, et en fait, c'est pour montrer un nouveau cycle lié à l'économie circulaire.
L'économie circulaire.
Ouais. Bonne réponse de Caroline.
Vous vendez quoi ?
Alors nous, on vend un service clé en main qui permet aux entreprises de remplacer leurs gobelets jetables par des gobelets réutilisables comme celui-ci. Donc l'idée, c'est que c'est le premier gobelet réutilisable qui s'adapte dans toutes les machines qui existent sur le marché, donc tous les distributeurs. Donc on le met simplement à la place des gobelets jetables. Ensuite, on vient le collecter.
Je veux voir. Je veux le toucher quand même pour me rendre compte de quoi il s'agit. Ah, effectivement.
Il est pas mou.
Non, il est pas mou.
Il est ferme.
Ouais, mais alors en même temps, il est très lisse. Mais bon, très bien. Voilà. Ok. Il est estampillé New C, celui-là. Bon, oui. Allons-y.
Ça peut être logoté d'ailleurs, ça peut être en marque blanche à l'effigie au logo de vos clients.
Oui, tout à fait. C'est souvent un choix de nos clients de personnaliser le gobelet justement pour mettre leur message clé directement dans les mains de leurs collaborateurs et de leurs visiteurs.
Mais qui sont vos clients d'ailleurs? Ce sont les distributeurs, l'entreprise client final, les buveurs de café? Qui sont vos clients?
Alors, on a deux modèles. À 95% aujourd'hui, c'est les entreprises, les grands groupes qui achètent notre solution pour rentrer dans leur politique RSE. Et 5% qui commencent à se développer, c'est directement nos prescripteurs, donc les gestionnaires de distributeurs automatiques ou les facility management qui proposent à leurs clients notre solution directement dans leurs offres.
Et comment ils ont accueilli alors cette nouveauté, ces gestionnaires?
Bah, c'est vrai qu'au début, les gestionnaires, en tout cas, il a fallu faire beaucoup de tests techniques pour leur prouver qu'il n'y avait pas de problème avec le gobelet. Donc, ce qu'on a fait de part avec directement les fabricants de machines, mais également avec les leaders du marché en distribution automatique. Donc, il n'y a pas de souci technique. Donc, maintenant, ils sont contents parce que ça leur fait vraiment une différenciation dans leur proposition pour leurs clients par rapport à leurs concurrents.
Ça s'adapte à quel que soit le distributeur,
oui.
C'est ce que je comprends.
Tous les distributeurs et puis également fontaine à eau et cafétéria.
Donc, voilà, vous allez, vous fournissez les gobelets. Alors, je ne sais pas, ils sont made in quoi, je ne sais pas.
Bon, made in Bretagne.
Bon, mais Bretagne.
Oui.
Oh, c'est vous carrément. Qui les faites en fait, qui les fabriquez en
c'est
plus.
C'est un plasturgiste en Bretagne.
D'accord. Extra. Alors donc vous fournissez le gobelet, vous récupérez les gobelets dans des containers jusqu'à 1500 gobelets par container. Vous allez laver le gobelet, vous allez restituer le gobelet, le réinstaller. C'est ça le service client. Hein.
C'est ça.
Ouais. Et en fait, ça me coûte de l'argent quand même si je décide de faire votre solution par rapport à ce que je faisais avant.
Voilà,
un système
par
de
un gros sous. Pour un.
Ça va quand même coûter.
Là,
oui, c'est du RSE. Oui, c'est du développement durable, mais ça a un coût pour votre client.
Oui, tout à fait, c'est un coût et on s'en cache pas. Nous, on propose vraiment un service qualitatif. Donc, pour vous donner une idée, le panier moyen actuellement, il est de 500 euros pour une entreprise de taille moyenne de 100 personnes par mois. C'est des abonnements mensuels. Mais ce qui est intéressant, c'est que, bah, bien sûr, c'est un coût, mais il y a aussi des leviers puisqu'ils bénéficient d'une déduction AGFIP puisque nous travaillons en partenariat avec des entreprises adaptées, donc qui emploient des personnes en situation de handicap. Donc, c'est un frein, financier. Et également, faut savoir que c'est sûr qu'à court terme, c'est un investissement. Mais à long terme, vu qu'on réutilise les gobelets, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus viable que ce qui se fait actuellement, même économiquement.
Alors, moi, je suis très inquiet parce que je suis un grand buveur de café.
Oui.
Est-ce que je vais payer mon café plus cher?
Non, vous n'avez pas payé votre café.
Quelle radance, Fabrice, vraiment.
D'une part, vous n'allez pas payer votre café plus cher. Et d'autre part, si vous réutilisez plusieurs fois ce gobelet dans la même journée, vous payerez moins cher vos cafés.
Ah, c'est-à-dire que je me balade avec mon gobelet toute la journée.
Oui, parce que du coup, il n'y a plus de gobelet à fournir.
Ah, il y a la possibilité dans le distributeur de mettre son gobelet. D'accord. Mmh.
Okay. Oui, donc c'est à moi de le laver, en fait. Hein.
Non, c'est pas
vous. Vous pouvez écrire Fabrice sur votre petit gobelet avec un petit feutre. C'est assez californien, je trouve, s'emballer avec son gobelet.
Bon, il faut changer les habitudes des gens, parce que partout, on a l'habitude de voir arriver des gobelets qu'on va mettre à la poubelle. Donc, il faut que le conteneur soit visible, il faut qu'on comprenne que ce gobelet n'est pas comme les autres. Alors, quand on le touche, on se dit, ça fait un peu comme dans les concerts, vous savez, quand on vous donne des gobelets qui sont clairement rigides, vous comprenez simplement, les ayant dans la main, qu'ils ont une vocation à être réutilisés. Enfin, il faut quand même l'installer, quoi.
Et alors, justement, puisqu'on parle d'évangéliser, moi, ça m'amène aussi à la dimension commerciale. On se questionnait sur ça avec Fabrice, c'est que, faut aller vendre, hein, maintenant. Donc, bon, vous avez séduit pas mal de groupes. Qui est l'homme ou la femme du commercial dans la bande, l'un des quatre?
Bah, l'homme du commercial, c'est Hugo. mais on fait aussi à tous du commercial maintenant. Et on a la chance, vu qu'on a gagné de nombreux concours l'année dernière, d'avoir eu beaucoup de demandes entrantes. On a eu plus de 80 grands groupes qui nous ont contactés. Donc là, maintenant qu'on est prêt à se lancer sur le marché, on est vraiment en train de qualifier ces demandes pour pouvoir du coup nous déployer rapidement.
La question que je souhaitais aussi vous poser, c'est que un jour, vos gobelets arriveront à leur fin de leur cycle de vie. Et concrètement, avez-vous déjà prévu de pouvoir les recycler facilement?
Oui, tout à fait. Alors déjà, il faut savoir qu'un gobelet comme ça, on calcule un cycle de vie de 150 lavages. Donc ça revient dans les mains du consommateur à peu près tous les mois. Donc c'est 150 mois. Donc c'est vraiment une durée de vie qui est très importante par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Et en fin de vie, effectivement, ils sont recyclés. Et donc dans des pièces non alimentaires, parce qu'on n'a pas le droit de refaire de l'alimentaire. Donc en pare-choc de voiture ou autre.
D'accord. Voilà.
C'est ambitieux, hein, tout ça. Moi, je me demande au départ ce qui vous a motivé tous les quatre à vous lancer dans quelque chose d'aussi complet. Il y a la conception d'un recycleur, il y a le fait que ce gobelet aille absolument partout, le matériau, la fabrication, la distribution, c'est énorme. C'est parti de quoi?
Ben, en fait, c'est parti d'un constat très très simple, c'est qu'on n'en pouvait plus de voir des poubelles remplies de gobelets jetables partout en entreprise, dans les campus. Et du coup, on s'est dit, comment on fait pour résoudre ce problème? Donc, on est parti du gobelet qu'on a créé sur mesure pour les distributeurs. Et après, on a développé tout le service en se basant sur l'économie circulaire.
Mais il y avait des solutions quand même. Alors, peut-être imparfaites à vos yeux. La cité cannibale tout à l'heure. Il y a dans pas mal d'endroits des collecteurs. Simplement, et on se doute qu'après, ça part au recyclage. Pourquoi ça vous semblait insuffisant?
Pour vous donner une idée, il y a 4,7 milliards de gobelets qui sont jetés actuellement en France. Il n'y a qu'un seul pourcent qui est recyclé. Donc certes, ces solutions sont intéressantes, mais
c'est l'équivalent de 25 tours Eiffel, si je ne me trompe pas.
C'est ça.
Hein? Pas mal. Et... mais pas en métal. Hein.
Pas en métal. Dernière question, Fabrice.
Alors, de nouveau, je suis un amateur de café. Est-ce que ça dénature le goût de mon café?
Non, le goût de votre café est le même. Ça ne sent pas le plastique. Et en plus, vous ne vous brûlerez pas les doigts en buvant. Donc, c'est quand même beaucoup plus sympa.
Bon, me voilà rassuré.
Caroline Bétan, voilà, avec Newsy, notre deuxième candidate aujourd'hui. David Finel, bonjour.
Bonjour.
Il est venu nous présenter SharePay, le paiement collaboratif. J'en dis pas plus, explication.
Je suis David Finel, j'ai 27 ans et j'ai cofondé SharePay en 2014. C'est une carte de paiement qui permet de payer à plusieurs. Et en fait, aujourd'hui, moi, je suis en couple et lorsque je vais faire les courses au supermarché, je paye avec ma carte SharePay et le montant est instantanément partagé et directement débité sur mon compte bancaire et sur celui de ma copine. La carte SharePay est gratuite, vous pouvez la commander sur notre site web en quelques clics et on est en train de préparer un modèle freemium qui devrait voir le jour dans les prochains mois. Et avec cette offre freemium, vous aurez le droit par exemple à des retraits illimités, à des paiements à l'étranger sans commission ou à des dépenses sans maximum de volume. Les utilisateurs SharePay sont principalement des jeunes entre 18 et 35 ans qui vivent en couple et qui sont pas mariés. Il y en a à peu près 4,2 millions en France et plus de 50 millions en Europe. L'ambition de SharePay, c'est d'atteindre 500 000 utilisateurs d'ici 2020 et d'être leader dans toute l'Europe.
Voilà, SharePay, donc la carte bancaire, le paiement en ligne avec pour payer à plusieurs, si on a besoin de partager des factures, si on a besoin de partager des dépenses. Vous savez, quand on part en week-end entre amis, c'est l'enfer après quand on prend les tickets de supermarché pour faire les comptes et qui doit payer combien. Bon, allez-y, F. Chegaray, Fabrice Marcella, avant de marquer une pause d'ici 2-3 minutes.
Bonjour David.
Bonjour.
Alors David, la carte bancaire, elle doit exister depuis 1967, avec des milliards de transactions. Vous venez avec une nouvelle carte bancaire. En quoi elle est innovante, cette carte bancaire?
Alors, c'est vrai que la carte bancaire, elle a été inaugurée il y a très longtemps. Il y a différents marquages sur la carte qui nous montrent qu'elle a une histoire. Il y a la bande magnétique, la carte à puce, il y a plein de choses. Et nous, en fait, on a décidé de commencer avec la carte bancaire parce que c'est aujourd'hui la solution de paiement préférée des Français. Et en fait, nous, quand on voit le paiement mobile, on voit qu'on rentre sa carte bancaire dans un mobile. Et donc, on reste dans la carte de paiement. Nous, on est tout à fait agnostique vis-à-vis du paiement. Et donc, c'est carte aujourd'hui et demain, ce sera le paiement mobile. Et l'invention, en fait, c'est qu'on a été les premiers à ne pas lier cette carte à un compte bancaire unique. C'est la première carte qui, en temps réel, peut se configurer pour débiter un ou plusieurs comptes bancaires en temps réel. Et donc, c'est ça notre innovation.
Et vous avez réussi à vous faire comprendre facilement de vos interlocuteurs?
Alors, on a eu beaucoup de mal à se faire comprendre, à la fois de nos interlocuteurs utilisateurs et nos partenaires. On a rencontré toutes les banques, les fintechs et tous les grands noms de la banque qui nous ont dit que c'est impossible à faire ce que vous voulez faire. Donc, on a finalement réussi à le faire. Et puis après, on a dû expliquer aux utilisateurs comment ça marchait. Et quand on voit une carte, c'est difficile psychologiquement de comprendre que c'est pas une carte comme les autres.
Eh ben, il va falloir évangéliser. Hein.
Si on parle de paiement collaboratif, si on dit qu'on peut à plusieurs payer 50-50 ou 30-70 dans un couple, entre amis. Alors d'accord, effectivement, c'est un peu nouveau, mais on arrive un peu à conceptualiser l'histoire.
Oui, après, faut être prêt à tenter l'aventure, quoi.
Mais c'est quoi le pitch en un mot, là? Tu vois, 30 secondes avant de marquer une pause, en un mot, quand on veut vendre SharePay à quelqu'un qui en a jamais entendu parler, on dit quoi?
Alors, vous dites que aujourd'hui, en fait, nous, on vend ça principalement en couple. Et donc déjà, c'est plus simple puisqu'on segmente à qui on le vend. Et on ne vend pas la même chose aux couples qu'aux colocataires, par exemple. Et donc nous, on dit que c'est une alternative aux conjoints. Les couples qui cherchent une alternative aux conjoints savent qu'est le conjoint. Et donc quand on leur dit que c'est une alternative sans engagement, sans complexité et sans frais, et ben là, ils nous disent « Ah je préfère SharePay que le conjoint. »
C'est le PAX de la carte bancaire.
David Finel, donc avec SharePay, la carte se commande gratuitement sur le site de SharePay et elle est opérée par Mastercard. Ça rassure tout de même. La suite dans un très court instant.
BFM Business présente La 12e saison du concours de créateurs d'entreprise. BFM Academy avec Nicolas Dose.
On retrouve Eve Chégaret, Fabrice Marcellet, notre troisième candidat pour ce deuxième éliminatoire de la saison 12. Il s'appelle David Finel, il nous présente SharePay, la carte bancaire, le paiement en ligne pour payer à plusieurs, pour mutualiser des dépenses, pour partager des factures. Alors principalement, on l'a vu avec David en couple, à chaque fois qu'il y a un paiement, chaque membre du groupe qui partage reçoit une notification. On peut modifier ce que paye chacun dans le groupe, 50-50, 30-70. On peut même modifier évidemment la composition du groupe. Et tout ça est opéré par Mastercard, ce qui est plutôt rassurant. Donc suite des questions et des réponses de David, c'est parti.
David, moi j'ai une question sur la concurrence. Comment vous positionnez par rapport à la concurrence? On a des outils qui existent aujourd'hui qui permettent d'avoir des pots communs, des cagnottes. On a la carte bancaire, bien sûr, qui existe déjà. Et enfin, on a des outils qui permettent de faire les comptes après la dépense, hein, d'avoir des outils de compensation et de savoir qui doit combien et à qui. J'ai le sentiment que le marché est bien occupé aujourd'hui.
Alors, c'est une bonne question. En fait, nous, d'origine, on a commencé à s'intéresser aux couples. Et donc, la première solution qui est venue, c'est le compte joint. Et on s'est rendu compte qu'avec plus de 4,2 millions de Français et plus de 50 millions d'Européens qui vivent ensemble sans être mariés, sans avoir de compte joint. Et donc, nous, on a créé une alternative au compte joint. Et donc, on est parti de rien. Et on a essayé de créer la meilleure alternative, la meilleure solution de paiement collaboratif, qui est la seule solution de paiement collaboratif. Et donc aujourd'hui, quand on n'a pas de compte joint, il y a d'autres solutions qu'on a identifiées. C'est les solutions où on bidouille, en fait. Donc premièrement, on décide de faire les comptes à la fin du mois. Et donc il y a soit le vieux tableau Excel, soit encore plus vieux, les notes de
frais. Ah, c'est de l'amour dans le couple.
Mais d'ailleurs, son truc, c'est faites l'amour, pas les comptes.
Hein. Oui, il y a beaucoup de bébés, d'ailleurs, en utilisant...
c'est une question que j'avais pour vous. Continuez avant de faire le compte des bébés, parce qu'on a plus de temps pour s'en occuper. Sur la démonstration, là, allez-y.
Donc, faites l'amour, pas les comptes, parce qu'en fait, la majorité des gens font les comptes, que c'est chiant de faire les comptes, et donc que c'est mieux de faire l'amour. Et donc, on préfère faire l'amour que les comptes. Et d'ailleurs, on a reçu une fois un message qui dit, à force de faire l'amour, pas les comptes, on fait des bébés. Et donc, aujourd'hui, on a eu un bébé. Et donc, on a déjà eu un bébé qui est né sous des gens qui ont un
le bébé s'appelle David, non?
Donc il y a les solutions pour faire les comptes, et quand on n'a pas envie de faire les comptes, on peut se rembourser de l'argent, et donc il y a le virement bancaire, il y a toutes les solutions qui viennent remplacer le virement bancaire comme Lydia ou Pumpkin, et la dernière solution, c'est la solution qui consiste à s'arranger, et donc soit on va faire les courses ensemble, soit dans le calendrier on dit toi tu payes ce jour-là, moi je paye ce jour-là, soit tu payes EDF, etc. Et en fait on a vu que toutes ces solutions donc qui sont des alternatives aux conjoints ne sont pas bien, et donc on a créé SharePay pour avoir une meilleure solution pour ces gens-là.
Non, mais moi j'ai une petite question philosophique quand même. Donc on est là en train de se dire que les gens veulent plus s'engager. Ouais. Donc ok, je vous prends un peu sur un sujet connexe, mais est-ce que le vrai sujet c'est pas d'aider les gens à s'engager aujourd'hui? C'est horrible votre solution.
Vous voulez dire que la carte organise la séparation?
Mais oui, voilà. C'est terrible.
C'est une bonne question. Nous on voit pas la chose comme ça. En fait, on essaie vraiment de s'adapter au mode de comportement des gens. Les gens n'aiment pas vraiment s'engager sur le long terme, préfèrent essayer avant de voir. On n'est plus dans un cadre classique du couple où en fait on rencontre quelqu'un qu'on n'a même pas particulièrement choisi et puis on vit avec elle, lui on se marie et puis on est toute la vie ensemble. Aujourd'hui on a évolué et donc nous on s'adapte au comportement.
Donc
on
n'est pas là pour imposer des choses. Il y a un vrai petit sociologue en David.
On a fait une vraie étude sociologique du couple et de la place de l'argent au sein du couple avant de
Et avec votre copine, vous partagez bien les frais?
C'est comme les politiques, il y a la vie publique.
C'est la transparence contrôlée, voilà.
Voilà, la transparence contrôlée.
Combien d'utilisateurs aujourd'hui?
Alors nous, on a lancé le service en juin dernier. Et on a petit à petit recruté des gens qui sont venus nous voir. Donc c'est 4000 bêta-testeurs de la solution. Et on n'a pas été les chercher, ils sont venus nous voir. Et en plus de ça, il y a 3000 personnes sur liste d'attente qui sont venues nous voir. Donc en fait, ça fait 7000 personnes qui ont adhéré à SharePay, 4000 qui l'utilisent aujourd'hui. Et on va progressivement augmenter cette base d'utilisateurs.
Est-ce que vous avez des utilisateurs qui seraient des frères et sœurs qui ont des dépenses communes pour un parent dépendant, par exemple? C'est l'autre bout du spectre de votre cible en termes d'âge, mais
c'est intéressant. C'est intéressant puisque nous, la mission de SharePay, c'est de simplifier les dépenses communes. On a commencé à s'intéresser au couple parce qu'on a vraiment identifié qu'il y avait un gros problème au sein du couple. Et en fait, on sait que notre solution, elle est vouée pour plein d'autres cas d'utilisation. Les parents divorcés, les enfants, les seniors, les entreprises, enfin vraiment plein de choses. Et donc on a déjà eu des gens qui ont donné leur carte à leur nounou. Et en fait, on travaille avec une association en ce moment qui souhaiterait aider des personnes, qui vont aider des personnes en mobilité réduite pour faire en sorte qu'ils aillent faire les courses et que ce soit directement la personne ou ses parents qui soient débutés, ou même ses enfants.
Allez, une dernière question. Aujourd'hui, on retourne chez soi quand on a oublié sa carte bancaire. Et aussi son mobile. Alors vous, la carte bancaire, c'est bien, vous l'abordez, mais pourquoi vous n'êtes pas allé sur le mobile tout de suite?
Le paiement mobile. Nous, on a vraiment voulu se dire, est-ce que les gens payent avec leur mobile? Je ne sais pas si vous trois, vous payez avec votre mobile aujourd'hui, mais
Moi, je paye avec tout.
Moi, je l'ai déjà dit, je suis un geek.
je suis tellement dépensière. je paye avec des cailloux, moi, s'il le faut.
Alors déjà, on a vraiment voulu venir avec la carte parce que ce qui était important pour nous, c'est que les gens puissent l'utiliser partout, tout le temps. Et donc, on a commencé avec la carte. La carte, elle va bientôt pouvoir être mise dans le mobile. Et donc, on a, voilà, notre but, c'était vraiment de faire un truc qui marche tout de suite.
Voilà, David Finel, faites l'amour. Pas les comptes qui nous a présenté Sherpay. On est arrivé au moment de l'émission où vont suivre les moves du coach.
Wow.
BFM Academy, la mouche du coach.
La mouche du coach avec Erwan Lemenné. Donc, devenez propriétaire d'un arbre, financez sa plantation. Ça coûte une vingtaine d'euros à peu près. Faites-le par abonnement. Vous toucherez 100% des recettes au moment de la vente du bois de cet arbre, au bout de 20 ou 30 ans. Et vous participez à l'absorption du CO2. C'est la mouche du coach avec Fabrice Marcella.
Alors Erwan, j'en ai pas besoin d'en faire des tonnes pour vous dire tout ce que j'aime. Je vous ai sélectionné. Alors sachez aussi que j'ai acheté un arbre, on l'a dit tout à l'heure. J'ai acheté un épicéa. Mais je souhaitais, moi, acheter plutôt un châtaignier. Voilà, j'étais vraiment séduit par le concept. J'ai été extrêmement frustré de ne pas pouvoir choisir l'arbre que je souhaitais. J'ai beaucoup aimé aussi l'idée originale que d'avoir des revenus récurrents autour de l'abonnement. C'est comment faire en sorte, finalement, au fil des ans, de se constituer un livret arbre. Et j'ai aussi testé votre service client, puisque dimanche après-midi, à 15h, j'ai vu que des gens de chez vous, de votre équipe, étaient en ligne. J'ai testé, c'était pas du pipeau. J'ai eu la personne en ligne qui a pu me renseigner. Et dès septembre, j'ai cru comprendre que je pourrais acheter mon châtaignier. Alors,
un homme heureux.
Voilà. Je pense qu'il va falloir néanmoins travailler sur le réassort, de travailler sur le nombre de références disponibles. De nouveau, la promesse était là. J'ai été très frustré. Je suis vite retombé par rapport à ça. Il va falloir aussi convaincre le grand public. Le grand public, il est habitué aujourd'hui à l'instantanéité, à des temps courts. Comment faire en sorte de faire l'acquisition de nouveaux clients lorsque les temps sont aussi longs, finalement? Comment j'anime cette relation. Et enfin, l'autre problème qu'il va falloir résoudre, je pense, c'est que comment allez-vous faire du volume, parce que vous êtes capé par le nombre d'arbres disponibles aujourd'hui sur les terrains et les forêts que vous achetez. Voilà aujourd'hui les éléments, en tout cas, sur lesquels je pense il va falloir continuer à travailler.
Éléments de réponse, Erwan, donc d'abord sur le choix d'arbres disponibles, le fait que moi je ne crois qu'aux chênes, vive Saint-Louis, et paf, il n'y a pas de chêne ce jour-là.
Ah ben moi je suis très à l'aise avec ça, alors je dis avec un peu d'humour, on est dans un monde où on trouve tout partout. Donc moi les arbres c'est très précieux. Donc voilà, vous êtes voilà. Ah. Voilà. Si c'est vrai, voilà.
Ah j'adore. Donc, ben oui, j'adore. C'est... Non mais bravo.
Je j'irai pas voilà, nous on en fait on vend ce qu'on plante en fonction des plans de gestion de chaque forêt qu'on achète. Et donc je peux comprendre que les gens soient frustrés de pas avoir exactement l'espèce qu'ils veulent à la maturité qu'ils veulent, etc.
Ça leur fait du bien d'être un peu frustrés.
Voilà. Exactement, voilà.
Frustration durable. Voilà.
Non, par contre, sur le coup, effectivement, des surfaces, vous avez entièrement raison.
Aujourd'hui, ça, c'est les volumes. Donc, effectivement,
c'est les volumes.
Vous avez quoi? 18 000 hectares aujourd'hui et 5 600 arbres, un truc comme ça.
18 000, c'est un peu beaucoup,
Nicolas. Non, parce que j'avais lu sur le site, je crois.
Il y a un zéro en trop, peut-être.
Non, voilà, on a plus de 100 hectares aujourd'hui.
Ah, pardon, je me suis planté, oui, d'accord. Déjà un zéro de trop.
18 000 hectares, je serais pas à BFM Academy.
Non, mais j'aurais trouvé mon châtaignier.
Les volumes. Donc, en fait, aujourd'hui, effectivement, on a un sujet sur, effectivement, le volume. On rachète constamment. On n'a pas de problème de sourcing parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'anciennes terres agricoles. Vous connaissez, Nicolas, les problèmes de la PAC. Hein, mais voilà, donc il y a plein d'anciennes terres agricoles qu'on peut reboiser aujourd'hui, qu'on peut replanter assez
nous
facilement.
Nous aussi, on connaît les problèmes de la PAC.
Oui, bien sûr,
hein,
mais Nicolas, on parle plus souvent.
On écoute Nicolas, mais on l'écoute.
Voilà. Et voilà. Et après, effectivement, il nous reste un pivot à faire. Je vais pas un pivot à faire qui reste en fait à devenir une place de marché avec des groupements forestiers historiques qui pourront permettre l'entretien de leur forêt pour la transmission en abandonnant la propriété de l'arbre.
Bon, il y avait l'histoire du temps long. C'est vrai qu'aujourd'hui tout va très vite. Là, il faut attendre entre 20 et 30 ans.
Ouais, mais
Moi, je pense qu'il a raison de faire ce pari.
C'est la frustration liée au produit.
Ouais, mais bon, allez, regardez l'immobilier. Enfin, voilà, l'immobilier, quand une boîte achète aujourd'hui de l'immobilier, elle ne l'achète pas non plus pour 3 ans.
C'est l'anti-Amazon qui vous livre en une heure et qu'on n'en a même pas besoin. C'est débile. Exactement. Bravo de prendre ce pari.
Merci, Eve.
Voilà. Bon. Non, mais je donne ma bénédiction. D'accord. Je trouve que c'est canon. Et je pense qu'il a plus d'un tour dans son sac. Après, c'est vrai qu'on veut voir aussi quelle boîte vous voulez devenir, comment vous allez grandir. Et on vous souhaite que du bonheur. Hein.
Ouais. Bon. Super la move du coach, donc, de Erwan Lemenet avec Ecotri, passé du livret A au livret arbre. Maintenant, vous avez parfaitement compris le sens de cette formule. À suivre, la deuxième move du coach, c'est Newsy. Voilà, Caroline Bétan, donc, avec le gobelet réutilisable pour les distributeurs de boissons, pour les fontaines à eau, pour les cafétérias. Il est made in Bretagne. C'est toute une offre de services. L'entreprise de 200-300 personnes va faire installer ses gobelets réutilisables dans ses distributeurs. Les gobelets seront mis dans un collecteur ad hoc, seront évidemment intégralement recyclés en termes de nettoyage par l'entreprise Newsy pour se retrouver à nouveau mis en place dans le distributeur. Et plus ils sont recyclés, moins l'abonnement à terme est cher. Voilà, la mouche du coach avec Fabrice Marcella.
Caroline, alors vous le savez, votre idée m'a immédiatement séduite. Je vois peu d'entreprises aujourd'hui que j'accompagne sur vos sujets, le sujet notamment de l'environnement. Et l'idée seule ne suffit pas. Vous avez une formidable équipe, une équipe très complémentaire. Vous travaillez à l'horizontale. Vous gérez tout ça. Alors je ne sais pas si on peut l'exprimer ainsi, en bon chef de famille, en tout cas. Et vous avez la tête, en tout cas bien faite, la tête sur les épaules. Vous sécurisez votre activité en fonction des clients que vous signez et vous y allez vraiment pas à pas. Alors maintenant, ce que je pense, c'est qu'il va falloir aussi voir comment votre modèle va pouvoir évoluer, parce qu'il fonctionne de façon très locale. C'est-à-dire, pour pouvoir vous déployer, vous êtes obligé dans chaque région trouver des partenaires, distributeurs, entreprises de lavage notamment, pour que vous puissiez continuer à vous développer. Et je crois que vous avez des ambitions très fortes aujourd'hui, notamment en région parisienne et un peu partout en France. Ensuite, votre modèle vous oblige à convaincre à la fois vos distributeurs comme les clients finaux. Je pense qu'il va falloir aussi concentrer vos efforts sur l'un ou sur l'autre. Moi, je serais plutôt sur le client final, un bon prescripteur peut-être, pour obliger vos distributeurs à adopter votre solution. Autre point, je pense que la barrière à l'entrée de votre innovation n'est pas suffisamment importante. Pourquoi je dis ça? Parce que si vos partenaires...
Caroline, ne faites pas oui de la tête.
Mais je donne tout de suite la parole. Voilà, si les partenaires que vous cherchez à convaincre trouvent que votre idée est très bonne, ils ont l'assise financière finalement et la bonne connaissance de l'écosystème pour vous piquer l'idée. Donc il va falloir travailler davantage, en tout cas renforcer la barrière à l'entrée sur votre sujet. Je vais peut-être vous laisser déjà répondre sur...
Alors d'abord sur l'évolution du modèle, dans chaque région, le travail est à reprendre depuis le début. Comment est-ce que vous gérez cette difficulté?
Effectivement, donc on crée un écosystème local dans chaque région, c'est une de nos valeurs, et donc c'est pas si compliqué qu'il y paraît, parce que justement on a cette preuve de concept à Rennes, où on montre qu'on peut créer en entreprise adaptée un nouvel atelier rentable qui permet de créer ou de maintenir de l'emploi, et donc les entreprises adaptées sont vraiment à la recherche de ces nouveaux ateliers, et donc c'est pas un problème d'en trouver. Les partenaires de collègues, il y en a beaucoup dans toutes les villes, donc c'est vraiment pas un frein pour nous, et on va faire une levée de fonds à la fin de l'année pour pouvoir justement se répliquer au niveau national.
Alors vous devez convaincre les distributeurs, les clients, les deux, plutôt les clients, d'après Fabrice.
Alors, en fait, c'est surtout les clients, parce que les gestionnaires des distributeurs automatiques, ça nous a pris un peu de temps, mais maintenant, ils sont convaincus. Donc, tous les leaders veulent bien travailler avec nous et sont d'accord pour mettre nos gobelets dans leurs distributeurs si le client souhaite avoir notre service.
Et la barrière à l'entrée, pour terminer?
Bah justement, moi je trouve que c'est nos écosystèmes, parce que c'est pas si facile que ça à construire, et il faut aussi être dans ce milieu, avoir ses valeurs. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, sur toute la chaîne de valeur, on a trouvé des avantages pour chacun de nos partenaires ou parties prenantes, pour justement qu'ils aient pas à se dire eh ben on va le faire à leur place, mais qu'ils trouvent déjà leur compte comme ça.
Un petit commentaire de communication. Oui. D'abord, vous portez super bien le projet et j'adore votre nom, parce qu'il donne envie de voir pousser votre boîte à l'international.
Bah, on espère.
Ça, c'est bon. Newsy.
Vous avez déjà imaginé traverser les frontières avec ce produit?
Oui, tout à fait. Bah, nous, on est accompagné par le Key Climate, qui est un accélérateur européen sur le changement climatique. Et donc, on a fait une étude de marché pour étudier les endroits en Europe qui seraient le plus propices à notre développement. Et donc, c'est dans notre tête.
C'est
on
dans
va
le
y
pipe.
Arriver.
Voilà.
Dans le pipe. Caroline Bétan, donc, bravo. Avec Newsy. Dernière mouche du coach à suivre avant le choix de Fabrice Marcella. Donc revoici David Finel avec SharePay, le paiement collaboratif, la carte bancaire qui est opérée quand même par Mastercard et qui permet de partager les paiements entre deux ou plusieurs personnes, initialement plutôt imaginée pour le couple. Moi je me souviens les comptes d'enfer à la fin des week-ends avec les copains quand il fallait se séparer qui paye quoi, qui a payé quoi. Bon, c'est la mouche du coach de Fabrice Marcella.
Alors David, ce que je trouve remarquable, c'est d'avoir réussi, malgré les retours négatifs des experts du secteur, on va le dire comme ça, de vous être lancé, sans complexe, sans barrière, pour pouvoir proposer votre solution. En plus, votre solution est immédiatement disponible auprès des commerçants. Il n'y a pas besoin de déployer un réseau. Le réseau Mastercard est aujourd'hui à peu près disponible chez tous les commerçants de France et partout dans le monde. Enfin, SharePay est aussi tout de suite compatible, vous le disiez tout à l'heure, avec le paiement mobile, ou en tout cas le sera lorsque les usages seront là. Donc pour tout ça, bravo. Maintenant, moi, ce que j'aurais aimé quand même, c'est ce week-end de pouvoir payer mon arbre écoterie que j'ai acheté avec votre carte. Et c'était impossible. Je suis allé sur votre site internet et aujourd'hui, je ne peux pas commander votre carte. Alors, j'avais compris dans votre dossier que vous aviez des objectifs extrêmement forts de croissance, hein, de l'ordre de, enfin, l'objectif est d'atteindre 100 000 utilisateurs d'ici 2018. Alors, j'aurais pu contribuer en tout cas à votre croissance et j'ai été frustré, j'ai pas pu le faire. Ça fait deux fois que j'étais frustré d'ailleurs ce week-end. Et ensuite, je pense que vous faites un focus trop fort sur le B2C. Votre solution doit pouvoir intéresser les grands acteurs du secteur et notamment les banques qui cherchent aujourd'hui des produits innovants pour pouvoir aller chercher une clientèle plus jeune. Et votre outil doit permettre de le faire. Enfin, la promesse de SharePay, c'est d'arrêter de faire ses comptes. Encore faut-il avoir un outil de gestion de budget associé. Et je ne crois pas que ce soit le cas aujourd'hui. Est-ce que c'est des choses que vous allez prévoir? Voilà l'ensemble de mes remarques.
Défrustrez-moi, bon. Ce Fabrice, oui, s'il vous plaît.
Il est terriblement frustré.
Non, j'ai pas pu acheter.
D'abord, effectivement, oui, vous en parlez super bien. C'est super sexy. Mais en fait, c'est pas. Si je vais sur le site, je ne peux pas la commander aujourd'hui, d'accord?
C'est comme un beau sac chez Colette. Il faut attendre un peu.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est non. Comme l'arbre. Il faut attendre 20 ans, 30 ans. Bah là, il faut attendre encore.
Non, c'est vrai qu'il faut attendre, que c'est frustrant pour les utilisateurs qui attendent leur carte et que c'est encore plus frustrant pour nous. Mais en fait, on est en train de finaliser une levée de fonds et en fait, on a vraiment fait avec les moyens du bord et maintenant, on a vraiment besoin d'avoir de l'argent pour continuer à faire ça. Je vous donne juste un exemple. Orange Bank qui vient d'annoncer son lancement, c'est 500 millions d'euros sur 5 ans. Voilà, nous on a quand même besoin d'argent pour faire tourner ça, avoir un support de qualité. Voilà, exactement. Non, mais pour maintenir un support de qualité, etc. Normalement, d'ici deux mois, elle sera ouverte à tout le monde, au grand public, et il y aura plus aucun problème.
Bon, trop B2C.
Alors aujourd'hui, en fait, on travaille avec les banques. Donc nous, on n'est pas comme tous ces gens qui se disent des bagarreurs de la banque, des Uber de la banque. Nous, on se dit simplement qu'on fait quelque chose de bien, qui est le paiement collaboratif. Et donc aujourd'hui, on travaille sur des partenariats bancaires, sur des partenariats de distribution. Et donc on travaille avec des banques, des assurances, des fintechs pour qu'elles distribuent la carte SharePay comme n'importe quelle banque distribue la carte Premier ou la carte Platinum ou la carte Gold, etc.
Donc vous venez pas uberiser encore, comme le disent certains, quelque chose, parce que c'est complexe dans votre cas. Vous pouvez pas taper sur les banques d'un côté puis leur demander de jouer avec vous d'un autre, quoi.
Alors, nous, c'est simplement par rapport à PayPal. Est-ce qu'aujourd'hui, PayPal est vraiment concurrent de votre banque? Non, c'est juste un service que vous avez en étant bancarisé. Nous, on dit aux banques, voilà, tous les gens qui sont clients chez vous, ils peuvent bénéficier de SharePay. Si vous avez envie de leur donner un petit truc qui est votre nom marqué sur notre carte, venez, faites un partenariat avec nous de co-distribution.
Le troisième point, c'était quoi déjà?
Le troisième point, c'était sur les fonctions de gestion de budget.
Ah oui, petit outil de gestion en plus de l'outil de partage.
Alors nous, on a un outil qui est très très sommaire aujourd'hui, qui vous permet d'identifier pour chaque dépense, est-ce que c'est une dépense autoroute, est-ce que c'est un resto, est-ce que c'est un loisir, etc. Et on travaille sur la mise en place de solutions de gestion de budget, mais maintenant, encore une fois, on n'a pas beaucoup de moyens et donc tous ces nouveaux services vont sortir quand on aura finalisé la levée de fonds.
Des sous.
David Finel, donc avec SharePay, c'est l'heure du choix du coach David Marcella. Ça va se jouer aujourd'hui entre Ecoterie, NewC et SharePay. On y va.
BFM Academy. Le choix du coach.
Ecoterie, donc le livret arbre, le gobelet réutilisable de NewC ou le paiement collaboratif de SharePay. Et c'est le choix du coach, signé, pas David, mais Fabrice, bien sûr, Marcella. On y va.
Merci Nicolas. Nicolas F, peut-on faire une exception cette année et garder les trois?
Non.
Mais bien sûr.
C'est Jacques Martin, youla.
Je mets 10 à chacun. Non, mais en tout cas, bravo à vous trois. Vous êtes passés de 500 à 50, de 50 à 12.
Ça, c'est l'entonnoir qui nous a amené à l'émission, voilà. Bien sûr. Hein.
Et donc, Ecotrip, contribue à la compensation de carbone en réduisant les déchets plastiques. Newsy contribue à la diminution des émissions en réduisant les déchets plastiques. Pardon, je l'ai dit deux fois. Et bien sûr, tu en plantant des arbres pour Ecotrip. Ça, c'est le stress de désigner un vainqueur. Et Sherpay contribue à augmenter le nombre moyen d'enfants par femme grâce à ça. En tout cas, comment faire pour vous départager? Ça a été extrêmement complexe. Et le critère que j'ai retenu, c'est le critère de la scalabilité. Alors, c'est pas un joli mot. Je vais essayer de le définir. C'est la capacité pour une petite entreprise, pour une petite start-up, de passer à la multinationale. La capacité à multiplier par 10 ou par 20 votre chiffre d'affaires tout en améliorant votre rentabilité. Et si je prends ce critère, Ecotri est capé par le nombre de forêts et le nombre d'arbres, aujourd'hui en tout cas. Newsy doit recréer à chaque fois un écosystème local pour se développer. Et voilà, ce sont les raisons qui expliquent pourquoi j'ai finalement choisi Sherpay pour continuer l'aventure avec nous, qui, selon moi en tout cas, est le modèle le plus scalable, dont la croissance finalement ne devrait pas nécessiter dans un premier temps des changements énormes. Voilà, donc voilà le bravo à vous trois, bravo David, voilà les raisons de mon choix.
Sherpay est donc notre deuxième finaliste, il rejoint Coussin Victor, sélectionné la semaine dernière par Evelyne Platnik-Cohen. Troisième éliminatoire, il est ému notre pauvre Fabrice. Troisième éliminatoire, la semaine prochaine, on sera avec Geoffroy de Bec-de-Lièvre, notre nouveau membre du jury cette année, Eve Chégaret. On aura trois candidats, tous facteurs.
Alors, tous facteurs, cette logistique du dernier kilomètre, enfin, on va se faire livrer chez soi depuis un point relais et tout ça.
Travaux libres,
comme son nom l'indique. Et ben, enfin, une bonne solution pour trouver vraiment les prestataires de qualité, l'intelligence artificielle, bien sûr. Et We Pet City, parce qu'on a des animaux de compagnie en France et qu'on a le droit de bouger, de partir en vacances, il faut les faire garder.
BFM Academy, on se retrouve la semaine prochaine.
BFM Academy sur BFM Business, le 19 juin. Il n'en restera qu'un.